deux films très particuliers, puisque deux films noirs et blancs, qu'on pourrait appeler muets, puisqu'ils sont sans, voilà, surtout avec un traitement sonore particulier. Alors, Blanca Nieves, ça veut dire Blanche-Neige, ça fait référence au conte, hein, Blanche-Neige. C'est un film tout à fait muet, avec, mais pas à sans son, avec de la musique tout le long, format carré, comme au temps du muet. Et Tabou, c'est un film avec parole, sans parole, mais avec son synchrone, et aussi qui fait référence au cinéma muet. Donc, alors, deux films, oui, très particuliers.
Et en même temps, l'un comme l'autre, rien à voir avec The Artist, par exemple.
Rien à voir. Alors, j'ai un petit peu de difficulté à parler de The Artist, parce que je n'ai
vous
pas
n'avez
vu.
Pas vu. Vous êtes probablement, voilà, l'une des rares personnes en France à ne pas avoir vu ce film récompensé, comme on sait.
Voilà, mais ça ne veut pas dire que j'ai aucun mépris pour les artistes. Au contraire, je trouve ça formidable qu'il ait aussi bien marché.
C'est quand même, voilà, intéressant qu'on revienne à une, à travers ces deux films que vous allez nous présenter, et cet autre film que j'ai cité l'an dernier, qui a connu l'immense succès mondial qu'on sait. C'est quand même tout à fait étonnant de voir qu'on revient comme à des sources premières.
Alors voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi ? Ce qu'il faut dire, ce sont quand même des films très différents les uns des autres. Alors je vais peut-être commencer par Tabou, qui est un film d'un réalisateur portugais qui s'appelle Miguel Gomes, un film qui dure 1h50. Là, c'est une vraie expérience.
On est en Afrique ?
On est en partie en Afrique. Il y a deux parties. C'est un film dont l'histoire est difficile à raconter sans parler de la forme. Parce que c'est un film basé sur deux parties, la première qui s'appelle Paradis perdu, la seconde Paradis. Et on commence avec un prologue, et chaque partie a une forme particulière. Toujours noir et blanc, format carré, mais l'image est traitée de manière différente, la nature des plans aussi, et le contenu aussi. Le prologue, c'est comme vraiment un tout vieux film muet, des plans très longs. Ça commence par un homme, une silhouette d'un homme colonial blanc, et dans la forêt vierge. Et au bout d'un long moment, lui est immobile, rentre dans le champ des Noirs, qui évidemment sont des porteurs, qui portent un gros bagage, qui s'éloignent. Ça dure. Et là intervient une voix d'un narrateur off qui nous raconte, sur un ton assez désuet, l'histoire de cet intrépide explorateur blanc parti en Afrique noire par désespoir, parce que sa femme est morte. Donc là, on est dans un esprit très Tintin en Afrique. Et donc ce petit prologue nous raconte cette histoire avec des images, une imagerie très stéréotypée, et nous raconte la mélancolie de cet homme qui va se suicider en se jetant dans la rivière des crocodiles. Et tout ça va finir par le fantôme de sa femme assise à côté du crocodile en question, qui a mangé donc son mari, et qui est lui-même atteint de mélancolie. Donc vous voyez, c'est très bizarre.
Oui, ça pourrait presque faire sourire, Nathalie.
Voilà, mais c'est très particulier. Il y a une poésie, il y a une étrangeté, et qui va se poursuivre tout au long du film.
Donc il n'y a pas d'ironie, hein ?
Non, il n'y a pas d'ironie du tout. Ce n'est pas du tout un pastiche, hein, comme pourraient l'être certains films comme des artistes, même s'il y a... c'est en honneur, hein, du cinéma hollywoodien. La seconde partie, par contre, est contemporaine, se passe à Lisbonne et commence par une femme qui s'appelle Pilar, le personnage, qui est assise dans une salle de cinéma. Donc voilà, on est déjà dans une mise en abîme. Hein, le spectateur voit une personne qui est en train de regarder un film au cinéma, qui était le prologue. Et là, cette femme, elle est une catholique très prête, très fervente, très dévouée, très altruiste. Et ça va être l'histoire de cette femme avec sa voisine Aurora, une vieille femme de 80 ans. Et on fait un saut. Là, c'est sonore, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de dialogues. C'est une partie assez longue, magnifique. Un jeu de comédienne d'une subtilité, des visages, des expressions magnifiques. Donc vraiment, c'est tout à fait prenant.
Alors, quel est le lien de l'un à l'autre ?
Eh bien, justement, voilà. C'est au spectateur de reconstruire petit à petit sa propre lecture du film.
Un puzzle.
Une sorte de puzzle qui va aller en s'accentuant. Et là, on va s'attacher à cette femme Aurora, cette vieille femme, qui est un personnage tout à fait fantasque, très élégante, assez mythomane, et qui va jouer toutes ses économies et ses maigres ressources au casino. Là, il y a des plans magnifiques, un très long plan d'elle au casino qui raconte le rêve qu'elle a fait, qui l'a repoussée à aller jouer au casino. Et on ne sait jamais très bien d'où vient cette femme. Et, elle vit, donc, la voisine de Pilar, avec une forte noire capverdienne, Santa, qui est en quelque sorte sa femme, dame de compagnie. Mais on apprend petit à petit que c'est plus que ça. Vraiment, elle gère le quotidien. Elle essaye de gérer cette femme incadrable et complètement infantile qui est Aurora, en étant à la fois flegmatique, inflexible. Donc on suit ces trois femmes sur quelques journées jusqu'à la mort d'Aurora. Et là, intervient un nouveau personnage, Ventura, un vieil homme de l'âge d'Aurora, qui vient raconter aux deux femmes, dans un supermarché sur un décor de jungle complètement factice, la jeunesse d'Aurora. Et là, c'est la partie paradis. Et il commence comme ça. Donc on a là une voix off de narrateur. Il dit « Elle avait une ferme au pied du mont Tabou ». Voilà comment on explique le titre. Et c'est là, on est dans une partie avec la voix du narrateur, toujours en noir et blanc, mais là, plus une nature comme dans le film Super 8, vous voyez, une lumière naturelle, un peu, c'est pas sautillant, mais une caméra très brute, et qui nous fait tout à fait plonger dans le souvenir. C'est vraiment la forme du souvenir. Et donc, on plonge dans les années 60, dans une Afrique noire. Alors, c'est tourné au Mozambique, mais on ne sait pas où c'est, puisque c'est un soi-disant hypothétique mont Tabou, dans un milieu de, tout à fait du colonialisme, dans une famille de colons. Et là, ce qui est magnifique, c'est que c'est un film qui raconte le souvenir d'une jeunesse perdue, donc par le personnage d'Aurora, d'un amour perdu, puisqu'on va apprendre l'histoire d'amour entre Ventura et Aurora, un amour tabou, puisque Aurora est mariée, elle est enceinte et elle va tomber amoureuse de Ventura qui est à leur service et qui va être aussi, qui va jouer dans le groupe rock local des années 60, tenu et joué par des blancs exclusivement. Le souvenir d'une époque perdue, donc du colonialisme, et d'un cinéma perdu aussi. Donc voilà, c'est ça qui est très fascinant dans ce film. C'est ce mélange de présence fantomatique, à la fois du cinéma, d'une imagerie coloniale. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce film. Pour moi, c'est un film sur ce colonialisme, mais qui n'est pas pris de front, qui est vu à portée de biais, par justement, en questionnant la représentation du colonialisme comme trace en nous, que l'on s'est construite par le cinéma, la fiction qu'on connaît, les archives. Et ça, c'est extrêmement subtil.
Pourquoi le titre tabou ?
Alors, ça fait référence à un film de Murnau, un film muet.
D'accord. Donc c'est, quelque c'est une référence, c'est une référence pour initier, on va dire.
Voilà.
C'est un peu savant.
Cinéma muet, donc une représentation désuète, mais aussi donc ce lieu imaginaire d'une Afrique noire dans les années 60.
Le réalisateur Miguel Gomez, vous le connaissiez ?
Moi, j'ai pas vu aucun de ses films précédents, mais il a déjà fait, c'est son troisième film. Son troisième long métrage, il a 39 ans, il a fait des films très particuliers. Et par exemple, sur ce film, sur le cinéma lui-même, voilà ce qu'il dit. Il dit « Le cinéma nous donne de vrais souvenirs à partir de choses qui ont existé et en même temps de faux souvenirs de choses qui n'ont jamais existé. » Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant et il joue sur ce mélange d'une Afrique, comme dans Out of Africa, qui est hollywoodienne. Et en même temps qui est mélangé à des choses réelles, avec ce colonialisme où les Noirs sont tout le temps présents, mais à l'arrière-plan. Ce sont les serviteurs, les porteurs, les cuisiniers, les villageois. Même dans la deuxième partie, la dame de compagnie
est noire
à l'arrière-plan, même si elle est...
celle qui tient la maison.
Voilà, oui. C'est elle qui tient les corps.
Miguel Gomez donc sort son dernier film Tabou actuellement en salle. L'autre film, alors une Blanche-Neige,
Alors
Nathalie.
Blanche-Neige, là c'est vraiment le conte de Blanche-Neige. Alors ce qui est formidable, C'est totalement réadapté. Ça, c'est vraiment une réussite du film par rapport au conte initial de Blanche-Neige.
Alors, c'est une version andalouse.
Voilà, c'est un film espagnol, Pablo Berger. Il a 49 ans, c'est son deuxième long métrage. Donc voilà, réadaptation du conte en mélangeant avec d'autres contes, Cendrillon, donc la catalepsie par exemple, la belle, oui ça c'est plutôt la belle au bois dormant, Cendrillon, la petite fille qui fait vraiment toutes les tâches,
Cosette.
Voilà, Cosette. Et ça c'est vraiment magnifiquement déjà tout réagencé.
Et on est toujours dans le muet là.
On est toujours dans le muet, et là c'est muet avec
donc
que musique.
Donc il n'y a pas une parole.
Il n'y a pas une parole, il y a des cartons écrits.
Extraordinaire, c'est un moment...
Il y a un seul son synchrone, je ne dirais pas lequel, pour que les gens aient la surprise. Et c'est transposé en Espagne, dans une époque, on ne sait pas très bien laquelle, mais dans le milieu de la tauromachie. Et alors là, je dis tout de suite, moi qui suis contre la tauromachie, qui est l'âme sensible par rapport à ça, vous pouvez, ceux qui ont un souci avec la tauromachie, vous
n'avez pas.
Il y a des corridas, ça commence par une corrida, ça finit par une corrida, mais c'est fait remarquablement. Je ne vais pas raconter, mais le taureau n'est pas forcément celui qui meurt à la fin de la corrida. Hein, puisque d'ailleurs, le début du film. C'est un torero vedette, Antonio Villalta. Hein, toute la ville s'est vidée pour aller dans l'arène le regarder. Et donc, combat contre, je crois, 6 ou 7 taureaux. Et il se fait encorner à la fin. Et en parallèle, sa femme qui était dans l'assistance, choquée, accouche. Et donc, on a un montage parallèle entre les deux actions. Naissance de la petite fille. Qui va devenir Blanche-Neige au cours de l'histoire du film. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais vraiment, ce qui est très, très passionnant dans ce film, c'est vraiment le regard aussi, l'écriture, qui n'est absolument pas mièvre et désuète, mais qui vraiment est celle de l'esprit espagnol, très en référence à Goya, en référence au surréalisme, au premier film de Buñuel, bien sûr, Un chien andalou, Terre sans pain. Alors, ce n'est pas aussi fort que Buñuel, mais c'est vraiment dans cet esprit-là, avec outrance, irrespect, provocation. Il y a une séquence hallucinante, quand le père, le torero aussi célèbre, meurt. Il y a une séance de photographie de son corps habillé en habit de lumière, où chacun vient poser à côté de lui sur le sofa dans la grande propriété. C'est complètement irrespectueux, hallucinant. Voilà, donc ça, c'est l'esprit. Et donc, cette Blanche-Neige va grandir.
Alors, c'est un conte pour enfants ou pour adultes ?
C'est pour les deux, parce que c'est à la fois très drôle, c'est cruel. Hein. Il y a évidemment le rôle de la cruelle qui est joué par Maribel Verdú, qu'on a déjà vu dans Tétro, le film de Coppola, qui est perverse, fascinante. Mais il y a toujours de l'humour. Hein. Il y a toujours de l'humour, il y a une poésie aussi. Il y a une autre actrice, Angela Molina, qu'on a vu déjà dans les films d'Almodovar. Et celle qui fait Blanche-Neige, Carmen Cita, c'est son vrai nom dans l'histoire, est jouée par Macarena Garcia. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Et elle va reprendre le rôle de son père. Elle va devenir torero, hein, mais avec les nains. Il y a des nains, ils ne sont pas 7, ils sont 6. Et il y a aussi tout l'esprit des films de Todd Browning, Freaks. Je ne sais pas, ceux qui sont cinéphiles auront déjà vu ce film. Et là, c'est vraiment une citation, un hommage parfait. Le film finit sur cet esprit-là.
Ce film terrible de Freaks qui replonge dans les années 1932. Oui, parce qu'il est parlant. Qui met en scène des personnages... entre guillemets, monstrueux.
Voilà, des sœurs siamoises, des vrais nains. Et donc, c'est un milieu...
Une réaction profonde sur l'humanité de ces êtres-là au regard d'une déshumanité de personnes qui paraissent normales et qui sont particulièrement inhumaines.
Voilà, donc on a tout ça, et avec une écriture, alors pour ceux qui auraient peur du cinéma muet, il y a tous la grammaire du cinéma muet, la magistrale inventivité du muet, avec par contre un rythme beaucoup plus actuel. plus rapide des plans qui ont une durée, voilà, qui ont une durée
un nouvel usage de ce type de cinéma.
Voilà, avec des trucages magnifiques, par exemple le reflet dans l'œil du taureau, du torero, oui. Et inversement le
très
reflet dans
c'est
le...
Très surréaliste, Garcia Lorca, hein, voilà. Presque. Hein.
Et donc voilà, c'est vraiment une expérience qui, j'espère, donnera envie à la jeune génération d'aller voir justement les films de Buñuel... de Muet et les films de von Stroheim, etc., etc.
Blanca Nieves, donc de Pablo Berger, en ce moment en salle avec autre film muet assez expérimental, non pas espagnol mais portugais, cette fois-ci de Miguel Gomes, Tabou, que vous nous avez aussi bien présenté, chère Nathalie.